À l'heure où de plus en plus souvent, il nous apparaît que la question des droits de l'homme est de plus en plus souvent bafouée, mais aussi où des mouvements que l'on surnomme woke s'en prennent à la notion d'universalité, d'universalisme, Alain Policard nous propose d'investiguer la question autour de son livre « L'universalisme en procès » aux éditions du Bord de l'Eau.
La première, le fin mot, Eddie Kakelbergs.
Nous ne connaissons pas nos droits, c'est pas normal du tout. Et donc, commencer déjà l'enseignement des droits de l'homme à l'école et même déjà en primaire est une bonne chose.
Commencer déjà à introduire ces droits des enfants dans les programmes scolaires est une très très bonne chose parce que ça permettra aux adultes de demain déjà connaître très tôt les droits des enfants et de manière à pouvoir les respecter, de manière à pouvoir les mettre en pratique dans leur vie au quotidien.
Force est de constater que l'année écoulée n'a pas été exempte de cas graves et flagrants de discrimination, de racisme et de violence dans notre société. Nous avons entendu dans nos stades et dans nos lieux de vie des injures et des moqueries que nous ne pouvons pas admettre.
Voilà, en fait, on veut vraiment se battre contre toutes les formes de discrimination ici. On connaît plein de potes qui se font stigmatiser par leur couleur de peau, leur origine ou même leur religion, et donc c'était important pour nous de venir ici aujourd'hui. On espère aujourd'hui que le monde politique va nous entendre et va prendre des vraies mesures pour lutter contre le racisme concrètement, parce que c'est plus possible, quoi.
Je pense que si on voyait une évolution et si on voyait un réel changement sur ces questions-là, ça se saurait. Malheureusement, c'est pas le cas. Et je trouve qu'on n'a pas suffisamment poussé le débat plus loin pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'on arrive avec des solutions, avec quelque chose de concret. On reste dans un discours, en fait. Et concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, c'est une question que je pose clairement, en fait.
La première. Le fin mot, Eddie Kakelbergs.
Bonsoir Alain Policard.
Bonsoir.
L'universalisme n'est donc pas quelque chose d'acquis de tout temps et pour tous les temps?
Ah, l'universalisme est souvent évoqué comme un simple slogan. On invoque l'universalisme parfois pour justifier, comme ça a été le cas dans l'histoire de la colonisation, notre mission civilisatrice. Et donc, mon objectif dans l'ouvrage que vous avez mentionné, c'est de renouveler un tout petit peu l'universalisme, c'est-à-dire de voir à quelles conditions il pourrait redevenir un horizon d'émancipation. Je le conçois évidemment comme un projet et non comme une réalité.
Dans les théories que Emmanuel Kant lançait, il y avait évidemment, de manière très pragmatique et philosophique à la fois, les impératifs catégoriques qui poussaient à cet universel. Il fallait concevoir que l'on travaillait pour plus que soi.
Oui, oui, c'est exact. Alors, en ce qui me concerne, je lis du verbe lier mes positions politiques à une anthropologie. C'est parce que je pense profondément que l'homme est un ensemble unitaire, notamment lorsqu'on est engagé dans un combat antiraciste. Sur ce point-là, on ne peut pas transiger. L'unité de l'homme est un principe fondamental et effectivement, la référence à Kant me paraît tout à fait bienvenue. Il m'arrive, moi aussi, d'y recourir ou à des auteurs qui sont des auteurs post-kantiens et notamment dans le cadre des théories de la justice sociale, des auteurs comme Rawls ou comme Dworkin.
L'universalisme, ce n'est pas une pensée hégémonique universelle. C'est le dialogue, le débat, c'est la prise en compte de l'autre. C'est un peu ça aussi, ou l'absence de cela progressivement qui vous pousse à mettre l'universalisme en procès.
Tout à fait. Et je crois qu'on a souvent confondu universel et uniforme. Et on a voulu effectivement bien souvent abraser les différences. L'universalisme dit abstrait, qu'on peut désigner autrement, on peut le désigner comme étant de surplomb, ou comme Aimé Césaire le faisait, comme étant décharné. L'universalisme qui ne tiendrait pas compte effectivement de l'altérité serait un universalisme privé de colonne vertébrale. Et c'est à ça que je me suis employé en partie, et évidemment je suis très très loin d'être le seul à l'avoir fait, en prenant en compte les contestations de cet universalisme, telles notamment qu'elles s'expriment dans des courants qui sont des courants importants et qu'on a tendance parfois à repousser d'un revers de main, qui sont les courants qui se proclament décoloniaux ou décolonialistes. Il m'a semblé nécessaire de les examiner de façon beaucoup plus profonde que généralement on ne le fait. On les renvoie bien souvent aux indigènes de la République en France, qui est un parti ou un mouvement, une association ça a été tout ça à la fois, qui n'est pas fréquentable, mais le décolonialisme, ça ne se réduit évidemment pas aux indigènes de la République.
Vous posez d'ailleurs le débat dans un chapitre consacré à l'universalisme dévoyé, vous posez le débat en termes d'interrogation, en tout cas, sur l'intégration. Et vous posez la question, est-ce que l'intégration est au service de l'universalisme ? En fait, quand vous proposez d'en finir avec l'intégration, on devine assez rapidement que vous pensez que l'intégration est un faux-semblant.
Alors, je ne propose pas vraiment d'en finir avec l'intégration, je propose de la considérer non pas comme un concept normatif, mais comme un concept descriptif. Il paraît normal de mesurer, on n'a pas beaucoup d'autres mots pour le dire, l'intégration des populations qui viennent dans un pays d'accueil, et de voir dans quelle mesure, effectivement, le vivre ensemble, comme on le dit souvent, est possible. Maintenant, il est clair que l'intégration est souvent vécue par ceux à qui elle est supposée s'adresser comme une injonction. L'idée qu'il faudrait renoncer à ces différences, et notamment en France, vous le savez, la querelle laïcité, mais c'est aussi le cas en Belgique, est extrêmement vive. Il faudrait renoncer en quelque sorte à sa différence religieuse et oublier véritablement ce que nous sommes profondément. Et ça, ça ne me paraît pas raisonnable. Bien entendu, il faut demander à ceux qui veulent vivre dans un pays d'accueil, il faut leur demander d'être d'accord sur des principes. Et encore une fois, je crois qu'il y a une confusion qui est souvent faite entre les principes qui sont, par exemple, les principes de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, auxquels on pourrait ajouter solidarité ou sororité. Ces principes-là sont transformés en valeurs, et c'est le cas dans la querelle française de laïcité. C'est-à-dire que laïcité devient une sorte de religion civile qui s'impose à tous. Et en quelque sorte, ça réintroduit l'idée que certains seraient incapables d'accepter les principes laïques, qui sont des principes strictement juridiques de séparation du politique et du religieux, comme chacun le sait. Et donc, en quelque sorte, il y aurait eux et nous, nous qui sommes capables de respecter la laïcité parce que notre religion est totalement sécularisée, en tout cas pour ceux qui ont une religion, du moins la religion dans l'espace public est sécularisée, et l'idée que les musulmans seraient incapables, en ce qui nous concerne, et c'est probablement aussi le cas en Belgique, seraient incapables de s'assimiler à ces principes-là. Ceci me paraît devoir être dénoncé avec la plus grande rigueur, car ça ne correspond pas à la réalité.
Il y a un vieil adage populaire exprimé en anglais qui dit « When in Rome, do as Romans do ». Quand vous êtes à Rome, faites comme les Romains. C'est un langage abusif, c'est une preuve d'intégration forcée dès lors.
Écoutez, on a effectivement un modèle d'intégration dit à la française qui a relativement bien fonctionné pendant très longtemps. Le paradigme de ce fonctionnement harmonieux, c'est l'intégration des populations juives à la République française. Donc je ne crois pas que le principe que vous avez énoncé soit à rejeter sans autre forme de procès. Il a fonctionné, le problème est qu'aujourd'hui, on s'arc-boute sur la défense d'un universalisme précisément indifférent à la différence, colorblindness comme on dit aux États-Unis, enfin dans les pays anglo-saxons, alors qu'il se trouve que ces différences-là sont des différences qui comptent parce qu'elles sont stigmatisées parfois par la population majoritaire. Et il y a des débats auxquels il m'est arrivé de participer sur le vocabulaire, en quelque sorte, qui est utilisé. On voudrait supprimer, par exemple, le mot « race », qui peut paraître plein de bon sens parce que les races n'existent pas dans l'espèce humaine, mais on oublie que le racisme, lui, existe à la tête des racistes et qu'il existe, hélas, aussi pour ceux qui sont précisément racisés. Donc je crois que de ce point de vue-là, le principe que vous avez énoncé ne me paraît pas devoir être rejeté, encore une fois, trop rapidement, mais nous sommes confrontés aujourd'hui à des difficultés dans ces mécanismes d'intégration. C'est mesuré notamment par les indices concernant l'emploi, concernant l'école, concernant l'habitat. Tout ça montre qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Un ministre comme Valls, autrefois, qui n'est pourtant pas réputé comme étant particulièrement à gauche, lorsqu'il avait pris ses fonctions, le ministre de l'Intérieur avait parlé d'apartheid. Je pense que le mot est parfaitement excessif, mais néanmoins, il montre qu'il y a en France des difficultés à vivre ensemble. Et cela me paraît être du ressort du pouvoir public que de résoudre ces problèmes, même si je ne suis pas naïf, il faudra des générations pour que nous y parvenions.
Vous évoquiez le décolonialisme en le séparant bien de ce que, à l'excès des mouvements ou des partis comme le Parti des Indigènes de la République et d'autres, que l'on connaît aussi sous nos latitudes, peuvent incarner. Mais est-ce que de renvoyer ainsi certains à leurs origines ethniques réelles ou supposées, d'autres à leur statut de blanc très mis en cause à l'heure actuelle, cancel culture ou woke, hein, vous ne pouvez pas traduire telle poésie noire américaine parce que vous êtes blanche vous-même, souvenez-vous de la querelle après l'investiture de Biden. Est-ce que de renvoyer chacun à ce qu'il est et non pas à ce qu'il dit ou ce qu'il fait n'est pas une forme d'essentialisme contraire à l'universalisme ?
Ah, mais ça, je suis parfaitement d'accord avec votre analyse. Le risque, effectivement, est l'essentialisation des catégories raciales. Cette querelle, d'ailleurs, à propos des statistiques ethniques, illustre cette question, puisqu'on craint, quand on y est opposé, qu'on cristallise ainsi des classifications qui n'ont pas de valeur en soi, même si, en général, ceux qui sont favorables aux statistiques ethniques le font sur le mode de l'autodéclaration. Mais ces catégories-là, pour qu'elles aient un sens dans le temps, il faut bien qu'elles soient en quelque sorte conservées, réifiées, donc essentialisées. Maintenant, je ne crois pas que tous les penseurs décoloniaux, qui sont extrêmement divers, peut-être pas trop géographiquement, parce que la plupart d'entre eux viennent d'Amérique latine, mais qui sont divers par leur champ d'études, hein, ça peut être la philosophie, la sociologie, la sémiotique et beaucoup d'autres disciplines encore, ne soient tous suspects, en quelque sorte, de céder à ce travers d'essentialisation. Je crois surtout, quand on regarde peut-être le plus intéressant d'entre eux, qui est Enrique Dussel, qui est un philosophe argentin, je crois surtout qu'il met en avant le fait que pendant des siècles, nous avons occulté l'autre, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages, à partir du moment où, en 1492, la modernité s'est constituée par l'aliénation, la subordination, la ségrégation. Et ça ne me paraît pas devoir être rejeté d'un revers de main sous prétexte que parfois, effectivement, et vous avez raison, il considérerait que les souffrances de ceux qui subissent le racisme ou la ségrégation, ou les discriminations de façon générale, sont le seul point de vue légitime. C'est là-dessus que je m'éloigne totalement d'eux. Une épistémologie du point de vue, comme ils disent, qui considérerait que la souffrance de la victime ne peut pas être partagée par celui qui ne souffre pas. L'idée qu'il faudrait en mettre pour savoir ce qu'il en est, hein, pour reprendre une phrase de François Héran, eh bien cette idée-là me paraît totalement fausse. Une épistémologie située, comme ils disent, n'est pas une épistémologie. L'épistémologie, nécessairement, va au-delà des codes culturels, va au-delà de ce qui nous sépare. Et c'est essentiel dans la démarche scientifique, mais ça l'est aussi, je crois, dans la démarche philosophique.
Alors, vous vous posez une question très touchy pour le moins. À quoi sert le concept de race ? On a le sentiment d'ailleurs qu'après la Seconde Guerre mondiale, au minimum, voire dans la décennie qui suit, ce concept ayant été à ce point à l'origine des drames de la Shoah, mais aussi probablement avant ça, du génocide arménien, etc. Ce concept de race que l'on a beaucoup agité aussi pour minoriser les populations colonisées, etc. On pensait que, précisément, on en avait fini avec lui. Vous dites que c'est plus nuancé que ça.
C'est-à-dire que, oui, moi j'ai grandi intellectuellement avec les déclarations de l'UNESCO d'après-guerre, des années 50, enfin, qui fondaient en quelque sorte l'antiracisme sur l'inexistence des races dans l'espèce humaine. Je pense que l'antiraciste n'a pas besoin de fondement scientifique. L'antiraciste est une démarche philosophico-morale qui n'a pas besoin de fondement de ce type. Donc, en quelque sorte, s'il existait des races, faudrait-il être raciste ? Bien évidemment pas. Et il y a tout un pan de la recherche qui a distingué les races du raciste, c'est-à-dire les races qui supposent, lorsqu'on parle ainsi de race au pluriel, une hiérarchie au moins potentielle entre elles, de la race en tant qu'objet d'étude, comme l'est le genre, ou comme l'est la classe sociale, par exemple. Et de ce point de vue-là, il me semble que la distinction entre les races du raciste et la race du sociologue, disons, ou du praticien des sciences sociales en général, cette distinction est fondamentale. Donc le concept de race n'est pas nécessairement un concept qu'il faille manier sans précaution, mais il existe néanmoins, et pour ceux d'ailleurs qui contestent le terme même, il existe néanmoins des identités raciales, des gens qui sont, en raison de leur histoire, qui se sentent effectivement, en quelque sorte, assignés à une identité. Alors, c'est le mécanisme que vous connaissez bien du retournement du stigmate. On est assigné à l'identité, et bien alors, on la revendique.
Donc, dans la mesure où, effectivement, on vous assigne à être noir, à être juif, à être peul, à être ouïghour, etc., vous participez de la stigmatisation qu'on vous fait vivre.
Bien sûr, ce n'est pas la seule façon d'être, tout ce que vous avez cité. On peut l'être de façon plus positive, notamment, on peut l'être lorsque on défend une culture donnée, ses particularités, etc., etc., mais... Bien évidemment, je suis assez proche de ce point de vue-là, de ce que disait Sartre uniquement sur ce point-là dans la question juive, c'est-à-dire que c'est quand même l'antisémite qui très largement en fait le juif. Encore une fois, un juif pratiquant vous dirait évidemment que ça ne se limite pas à ça, il aurait raison, mais il n'en reste pas moins que l'assignation identité fait que beaucoup de juifs qui se sentent très éloignés du judaïsme se réclament néanmoins de leur judéité, pour utiliser un terme qui a été rendu célèbre par un des auteurs que j'apprécie énormément, qui est Albert Memmie.
Vous n'hésitez pas également à nous rappeler, ça peut paraître évident à d'aucuns, mais pas forcément dans l'espace public, que la fin du colonialisme ne coïncide pas avec l'apparition d'un monde post-colonial.
Ça, c'est effectivement pour expliquer ce que disent les décoloniaux. Le concept fondamental des décoloniaux, c'est le concept de colonialité. Or, la colonialité, pour eux, c'est un point d'ailleurs qui est très contestable, mais qui est tout de même très stimulant pour l'esprit. La colonialité, je le suggérais tout à l'heure, commence en 1492, et la modernité en même temps. C'est-à-dire que modernité et colonialité sont indissociables. Or, il se trouve qu'une fois que le colonialisme, du moins en tant que possession par des puissances données de colonies, a cessé, la colonialité n'a pas nécessairement cessé, au sens où les rapports de pouvoir, et plus que ça d'ailleurs, c'est dans la vie quotidienne, perdurent après la fin des colonies, eh bien c'est ça qu'ils appellent la colonialité, et c'est là-dessus, évidemment, que à la fois leur analyse est passionnante, et elle peut être aussi considérée comme un petit peu radicale, parce que, bien entendu, on ne peut pas considérer comme équivalente, si vous voulez, une situation en période coloniale et en période post-coloniale. Mais néanmoins, pour eux, cette colonialité, c'est ce qui perdure. Donc la décolonialité, ça n'est pas le décolonialisme, en quelque sorte.
Venons-en à la fois, après l'analyse, au remède, hein, à votre universalisme reconsidéré. Et vous dites, il faut commencer par reconnaître l'injustice. En fait, il faudrait recommencer par l'idée que l'universalisme a servi à justifier l'oppression. Et que ne pas reconnaître ça, c'est ne pas servir la cause de l'universalisme précisément.
Oui, je crois effectivement que si on veut que ce mot-là fonctionne, comme je le disais au tout début de la conversation, comme un horizon émancipateur, parce qu'au fond, l'universalisme, c'est en son nom que les combats des pauvres ou des opprimés ont pu être menés. Si on veut qu'il soit ainsi de nouveau quelque chose d'attractif, il faut commencer par réparer les torts. Réparer les torts, ce n'est pas une réparation financière. Là-dessus, je suis totalement l'analyse que fait ma collègue et amie Magali Besson dans « Faire justice de l'irréparable ». Elle tient compte du fait que les structures qui ont installé en quelque sorte la colonisation n'ont pas totalement disparu. Ça ne veut pas dire, encore une fois, je le redis, que les choses sont équivalentes à ce qu'elles étaient il y a 40, 50, 60 ans, mais néanmoins, on reproduit, et c'est particulièrement visible lorsque l'on parle de racisme, on reproduit des schémas qui font que, par exemple, hein, soyons concrets, par exemple, si je suis noir à Paris ou si je suis arabe à Paris, j'ai quand même beaucoup plus de chances d'être contrôlé par la police que si je ne le suis pas. Et évidemment, chacun sait qu'un CV avec un nom maghrébin a moins de chances, avec diplôme égal et compétences égales, d'être examiné, je ne dis même pas retenu, examiné par un employeur potentiel. Ça n'est pas neutre, si je veux dire. C'est même profondément encore préoccupant. Et là-dessus, je crois que, et c'est un point qui est sujet de débat dans la famille politique à laquelle j'appartiens, je crois qu'il faut effectivement ne pas hésiter à prendre des actions compensatoires, parce qu'il y a une injustice historique qui a duré depuis des siècles, voire des millénaires en ce qui concerne les femmes. La parité, au fond, ça n'est pas autre chose qu'une action compensatoire à laquelle maintenant peu de gens s'opposent, sauf quand ils sont à l'extrême droite de l'échiquier.
Ouais, puisque vous faites référence à la famille politique à laquelle vous appartenez, disons-en un mot pour que le propos soit clair et ancré. Pouvez-vous nous situer exactement là où vous appartenez ?
Écoutez, donc, je parle de façon très très générale. Je veux dire qu'à gauche, C'est pas extrêmement précis, je le concède, mais moi je ne suis chercheur, donc je ne suis pas membre d'un parti politique quelconque. Pour vous dire les choses alors de façon plus précise, je vote pour la NUP parce que je pense que la politique d'Emmanuel Macron n'est pas une politique socialement, économiquement juste. Voilà. Et par conséquent, même si j'ai énormément de réserves, puisque vous voulez que je sois précis sur ce point, je vais l'être, j'ai énormément de réserves sur la personnalité du leader de cette alliance, Jean-Luc Mélenchon, avec lequel je suis en désaccord sur énormément de choses, notamment sur sa politique étrangère. Enfin, malgré les revirements timides récents, je n'accepte pas sa politique étrangère. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que tous les éléments de son programme économique soient véritablement viables. Mais ça, c'est une chose sur laquelle on ne peut pas se prononcer trop à l'avance. Voilà pour me situer.
Vous nous suggérez, toujours pour reconsidérer l'universalisme, de penser à un monde commun à travers la nécessité du cosmopolitisme. Ça, pour l'instant, si je prenais même rien que la phrase que l'ancienne chancelière allemande a pu prononcer, wir schaffen das, on voit bien que ça provoque des boutons.
Ben ça, c'est certain. J'ai bien conscience d'abord que le cosmopolitisme ne peut être, dans un premier temps, qui risque de durer longtemps, qu'une attitude morale, c'est-à-dire qu'il s'agit de considérer que c'est un pari sur l'intelligence, si vous voulez, il s'agit de considérer que nous ne sommes d'un lieu donné que par hasard et que fondamentalement nous appartenons à l'humanité. Comme le dit Achille Mbembe, nous sommes tous des passants. Hein. Et dans la mesure où nous sommes tous des passants, nos identités particulières, et en l'occurrence nationales, n'ont pas de valeur en soi, à mon sens. Et donc, le fait que je sois français, je n'en suis pas du tout malheureux, mais je n'en suis pas fier, car on ne peut pas être fier de ce que le hasard a fait que nous sommes ce que nous sommes. Donc, je crois que cette attitude consistant à relativiser les appartenances, à mettre en cause cette posture identitariste que l'on rencontre dans l'échiquier politique, aussi bien à droite qu'à gauche. On n'a pas cité le printemps républicain, qui vient d'ailleurs en France d'avoir une grosse déconvenue, puisqu'aucun de ses membres importants n'a été appelé à une fonction dans le gouvernement Macron. Mais le printemps républicain, qui défend une laïcité intransigeante, à mon sens exclusive, me paraît aller droit dans le mur et contribuer à cet obscurcissement de l'idéal universaliste, puisqu'il s'en réclame. On a pu voir également un journal comme Franc-Tireur, qui a été créé récemment et qui prend un titre célèbre et glorieux, et qui s'en réclame également, alors que la laïcité qu'il défend est une laïcité qui me paraît confondre le principe, comme je le disais d'ailleurs, juridique de séparation de l'État et du religieux, avec le combat contre la religion, qui est un combat qu'on peut parfaitement mener, mais pas au nom de la laïcité.
Nous approchons bien sûr de la fin de l'entretien, mais je relève encore ceci, vous questionnez, vous citez dans votre reconsidération de l'universalisme un certain nombre de penseurs, notamment avec l'idée qu'il faille que la démocratie planétaire refuse d'instruire de nouvelles fermetures. Alors, il faudrait pour ça que l'humanité ait conscience d'être l'humanité, c'est-à-dire que pour l'instant, on se renvoie quand même beaucoup aux territorialités.
C'est vrai, je ne peux pas dire le contraire, c'est vrai. Je dirais même que paradoxalement, c'est parce que c'est ce que vous dites est profondément vrai que le réflexe cosmopolitique est important. Bien entendu, le cosmopolitisme que je défends, c'est un processus, là encore, c'est un horizon. C'est processuel, comme le dit Francis Schoenwald, un auteur suisse qui a écrit un livre qui s'appelle ainsi, le cosmopolitisme processuel. Et c'est une politique des petits pas. L'idée que aujourd'hui, notre destin n'est pas uniquement national, que la plupart des problèmes qui se posent et qui sont essentiels sont des problèmes qui se posent à un autre échelon que l'échelon national. Bien sûr, pour nous, l'échelon européen, mais au-delà, à l'échelon de la planète, c'est une prise de conscience qui me semble tout de même gagnée chez les jeunes. Alors, ça n'est pas généralement théorisé sous le nom de cosmopolitisme, mais au fond, quand on les écoute, bien souvent, on pourrait le traduire ainsi. C'est-à-dire, on ne veut pas rester dans son précaré parce que les problèmes concernent l'humanité entière. Et ça ne me paraît pas du tout de l'ordre de la chimère. C'est certes une utopie, mais l'utopie parfois se réalise.
Je vais donc proposer à celles et ceux qui nous ont écoutés, Alain Policaire, de vous retrouver, plus en détail bien sûr, dans votre livre « L'universalisme en procès », c'est aux éditions Le Bord de l'eau.
Merci à vous de m'avoir invité.